Nous, ce qu'on veut, c'est vraiment retourner à l'université.
J'ai pas réussi à rendre tous les DM.
Moi, je suis vite distraite.
T'as rien oublié. Effaceur, Tipex, ton goûter, t'as ton goûter.
C'est-à-dire que le plus beau cadeau qui nous a été fait depuis qu'on est petit, c'est...
La cour d'honneur.
J'ai aussi écrit un courrier au président de la République, parce qu'on sait jamais. Hein.
Ça va tout changer, parce qu'en plus, j'habite à Paris.
J'attends, est-ce qu'il y aura un autre confinement, et est-ce que je vais pouvoir travailler.
90% du temps était voilà, dans sa chambre, sur son lit. Où,
J'ai foulé le sol de la cour d'honneur pour la première fois. J'ai pas été impressionnée.
S'il tressaille, on frissonne.
Bonjour,
bonsoir
et bienvenue
à Cour d'honneur,
saison 5, épisode 12.
C'est l'heure de votre émission préférée parce qu'on sait que vous n'en avez jamais assez.
Et oui, nous sommes plus vite que notre ronde 2 jours après avoir fêté notre anniversaire.
D'ailleurs, on vous remercie d'être venu nous voir et de soutenir RSU au quotidien.
Et on va continuer à vous faire kiffer avec au micro encore et toujours vos boss ladies préférées, Swan.
Ellie, j'espère que vous êtes parées à nous écouter parce qu'on a encore de l'énergie et de la chronique à revendre.
Et ce soir, on se pose cette question, toujours la même.
C'est quoi être étudiant à la Sorbonne ?
On vous répond ce soir sur Radio Sorbonne Université.
Votre magazine préféré d'infos et de culture qui fait le tour de la Sorbonne et de ses campus.
C'est en direct un mercredi sur deux.
Et un samedi sur deux sur Radio Campus Paris.
Pendant une heure, on va
parler d'amour.
Pas parce que je vais rouler une galoche que c'est mort l'amour, ok ? Non mais c'est pas possible ça. Non, ça va pas le faire, hein.
De notre cher Richelieu.
Tournez contre moi, vous savez, c'est le mot de Richelieu. Donnez-moi 3 mots de nappe.
Et de cinéma.
Parfois, le vendredi soir, Amélie va au cinéma.
Voici nos promesses.
Avec la meilleure des équipes pour vous servir.
Tout d'abord, bonsoir Clara.
Et bonsoir, ravie de tous vous retrouver, seulement 2 jours après, mais il y a toujours trop de temps entre les émissions. Alors moi, ce soir, on va parler avec mon invité de les relations internationales dans les mondes modernes, donc avec Géraud Poumaret.
On a hâte de vous entendre tous les deux.
Bonsoir aussi Mathilde.
Bonsoir à tous, moi je vous ai préparé un petit reportage sur les doubles licences, les grands oubliés de l'histoire.
Trop forte, bonsoir aussi à Lavinia.
Hello les filles, moi je vous ai préparé alors cette fois 2 chroniques, alors déjà des bons plans de jeunes cinéphiles et ensuite un portrait sur Salomé Sacchi parce qu'elle aussi elle est passée par la Sorbonne.
Très cool, on dit bonsoir aussi à Romain.
Bonsoir, bien moi je vous ai préparé une petite chronique sur les rénovations de la Sorbonne sous Richelieu.
Eh bien, on a très hâte d'entendre ça aussi. Bonsoir à Jade.
Bonsoir. Nous, aujourd'hui, j'apporte un petit peu d'amour. On parle d'amour, d'Italie. C'est le Sorbonne in Love, quoi. Mmh.
La Dacia Vita RSU, on aime ça. Et enfin, le fameux Elias.
Et bonsoir tout le monde. Moi, aujourd'hui, je vous ai préparé une petite carte postale de la Maison de la Vie étudiante à Jussieu, mon campus rêvé.
Et le meilleur campus.
Plus que rêvé, d'ailleurs. Ça fait 2 ans que j'y suis, donc plus que rêvé.
Et sans oublier le grand, le fameux et célèbre, notre maman, Thomas Schnell.
Mais vous savez que de temps en temps, faut quitter le studio là, parce que c'est bon, hein, vous êtes là tous les jours désormais.
On peut pas, on a le cul collé.
On va devoir payer un loyer bientôt.
Ouais.
Bref, allez, que vous soyez en pleine session de révision.
En train de vous dorer la pilule avec les 20 degrés dehors.
Ou encore en train de texte votre ex.
On vous accueille parmi nous pour la prochaine heure. Bienvenue à Radio Sorbonne. Et pour bien commencer, on se met dans l'ambiance avec la carte blanche, l'édito de Radio Sorbonne.
Faire peur aux bourgeois, eh bien c'est leur seule façon de montrer qu'ils existent.
Là, je suis vraiment fichée.
Carte blanche.
Ce soir, pour les édito, Swan nous raconte comment faire semblant d'être à l'aise sous le regard des autres. Les événements s'enchaînent et notre France laisse la lumière au glam, imperturbable par les scandales politiques du mois de février.
Demain soir, la France enfile son plus beau smoking intérieur pour la cérémonie des Césars, une soirée où l'on célèbre le cinéma français. Ses chefs-d'œuvre, ses silences gênés, ses discours trop longs et cette question : pourquoi ce film de merde a gagné contre le chef-d'œuvre que j'ai vu au ciné l'été dernier ? Une soirée aussi où l'on applaudit très fort, très poliment, en espérant que le scandale du moment reste bien caché sous le tapis rouge. Une accusation par-ci, un réalisateur mis en retrait par-là, et cette impression diffuse que le cinéma français adore séparer l'homme de l'artiste, surtout quand l'homme pose problème. Pendant que les acteurs répètent leur réaction faussement surprise devant le miroir, Paris, elle, se prépare déjà à un autre grand spectacle, la Paris Fashion Week, prête à porter femme automne-hiver 2026-2027 la semaine prochaine. Autrement dit, le moment où tout le monde porte des lunettes noires alors qu'il fait nuit, où l'on parle de structure, de matière et où un manteau peut coûter le prix d'un studio à Limoges. C'est là que les influenceurs essaient de prouver leur place parmi les fournisseurs de fashion et que les étudiants se glissent parmi les paparazzi plutôt que dans les mêlées d'extrême droite. Pour ce défilé, on lève la main pour demander une photo plutôt que pour revendiquer son amour de nazi, n'est-ce pas les Lyonnais ? Et pendant ce temps-là, loin des des tapis rouges et des front row. Les Jeux Olympiques d'hiver de Milan Cortina viennent de se terminer. Des JO d'hiver où l'on a vu des corps filer à toute vitesse, tomber avec élégance et se relever avec une dignité que n'ont jamais les invités des Césars quand la caméra les surprend en train de bâiller. On a vu le skieur norvégien Atle Magrath partir dans les bois pour renouer avec son instinct de loup après avoir enfourché dès le début de la seconde manche le slalom, plutôt Luzzo du coup. On a tous pleuré devant la performance du duo français en patinage artistique jusqu'à ce qu'on apprenne les accusations contre Guillaume Cizeron avant qu'il ne travaille avec Laurence Fournier-Baudry. Manque de bol pour les Québécois, on ravale nos larmes et on donne de quoi m'en commenter à Gabriel Papadakis. Finalement, ces trois événements racontent la même chose. Au César, on joue la comédie, à la Fashion Week, on joue le style, au JO, on joue sa carrière et parfois son ligament croisé. Trois mondes où tout est affaire de performance, acteur, esthétique ou sportif, et surtout trois mondes obsédés par le regard, celui du public, celui des critiques, celui d'Instagram, le juge suprême de notre époque. On l'a bien vécu lundi soir pour l'anniversaire de notre chère radio, on était sous les projecteurs, notre voix propulsé dans le légendaire amphi Richelieu, nos moindres gestes en cliché par la photographe, glam, paillettes et drama, le recette d'un public attentif. La conclusion est que l'on dévale une piste à Milan, que l'on défile à Paris et que l'on monte sur scène pour remercier toute l'équipe sans qui rien n'aurait été possible, il faut être vu et si possible bien vu. Alors cette semaine, entre un César, un défilé et une médaille, retenons une chose, qu'on porte une robe couture, une doudoune technique ou un costume trop grand, le véritable sport national reste le même, faire semblant d'être à l'aise.
Merci Swan pour ce petit édito et bien que tu en dis, j'ai hâte que ce soit la Fashion Week. Sinon, il est 18h06 sur Radio Campus Paris et 20h06 sur Radio Sorbonne Université.
Dans la vie, il y a des hauts.
Il y a des bas.
Et maintenant, place au débat.
Si vous n'aimez pas la mer, si vous n'aimez pas la montagne, si vous n'aimez pas la ville, allez vous faire foutre.
Quand vous avez attendu que le repas du Crous allait être à 1 euro pour tous, on a tous souri en se disant « Génial, je vais pouvoir économiser 2 ou 3 euros chaque midi pour pouvoir m'acheter d'autres trucs ». Sauf qu'en vérité, quand on regarde entre les lignes de ce projet de loi, ça sent plus la fausse bonne idée qu'une nouvelle bague quartier. On est donc allé vous demander votre avis.
Moi je pense que le repas à 1 euro ça devrait être pour tout le monde. Moi je suis boursière et j'ai le repas à 1 euro et ça m'aide vraiment pour consommer à 1 euro. Donc si tout le monde peut avoir cette possibilité, ça peut aider plein d'étudiants.
Moi aussi, du coup, je suis boursier et je suis complètement d'accord. On devrait l'ouvrir à tout le monde. Et je rajoute même qu'il y en a qui me disaient « Oui, mais ça veut dire que même les riches, ils auront le droit au repas à 1 euro ?» Eh bien oui, ouvrons le Crous aux riches, on s'en fout.
Tout le monde a besoin du repas à 1 euro. Et même s'il y a des manques dans la loi, c'est-à-dire des élèves en BTS, et j'imagine que ça ne doit pas être les seuls, oui, c'est des choses qu'il faut faire remonter, sur lesquelles il faut agir. C'est pas pour autant que ça doit justifier le fait d'être contre le projet de loi en soi.
Étant étudiant boursière, j'ai bénéficié du repas à 1 euro toute ma scolarité. Donc ça a été vraiment un gain d'argent absolument sur toutes les semaines parce que c'est des vraies économies par rapport au repas. Et je vois pas pourquoi est-ce que des étudiants, sous prétexte que certains parents gagneraient mieux, devraient payer pour ça, parce qu'en fait il y a énormément de parents qui n'aident pas leurs enfants, notamment dans les loyers, et que les bourses diminuent d'année en année. Enfin, Macron a beau dire que ça augmente, par rapport à L1, j'ai fait que perdre de la bourse. Donc je pense que oui, ça devrait être complètement uniformisé et que tout le monde devrait pouvoir s'alimenter.
Alors, petite remise en contexte, du coup, vous venez d'entendre nos chers camarades. Il y a du coup un chèque de l'État qui est prévu de 50 millions d'euros pour les restaurants du Crous pour que tout le monde puisse avoir accès à un repas à 1 euro chaque midi. Et il y en a du coup qui trouvent que c'est plus ou moins une bonne idée, d'autres une fausse bonne idée. Donc, qu'est-ce que vous en pensez? Vous, est-ce que vous ne pensez pas qu'il y aura des manquements autre part? Est-ce qu'on ne pourrait pas mettre cet argent autre part aussi?
Je trouve que ce projet-là, c'est une très bonne idée. Moi, personnellement, je suis boursier et je vois des amis à moi qui ne le sont pas. Et qui aimerait vraiment l'être, parce que justement, comme le disait une des personnes interviewées, c'est nécessaire pour eux, parce qu'ils ont un loyer à assumer, ils n'ont pas les parents qui les aident, malgré qu'ils ne sont pas boursiers, donc ils ont officiellement des revenus plus hauts que certains autres, ils ne sont pas moins dans la merde que d'autres. Donc je pense que c'est très utile et même primordial pour certains, et il y a des étudiants qui ne mangent pas, et c'est pas normal.
Mais par exemple, il y a par exemple des élèves en BTS qui eux n'ont pas accès au Crous et qui vont continuer de devoir payer des baguettes, des sandwichs à 5,50€ par exemple à la boulangerie du coin. Donc est-ce que tu penses pas que ça va creuser certaines inégalités par exemple?
Ça risque justement de le faire et je pense que c'est une mesure qui doit être prise pour les étudiants en général, quel qu'il soit, que ce soit en BTS, à la fac ou autre, que le Crous, qu'on aide réellement les étudiants à se nourrir parce que c'est un vrai problème.
Ouais, ce que tu dis, Élise, c'est vrai que c'est important. C'est un autre, bah, je trouve que c'est un autre volet d'action pour, nous égaliser aussi face à l'alimentation universitaire. Parce que effectivement, c'est pas parce qu'on a des parents qui gagnent mieux qu'ils nous aident de la même manière. Et aussi, ce système de bourse qui est vraiment super. On a beaucoup de chance d'avoir ça. C'est un palier. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui sont à ça d'avoir la bourse, mais qui l'ont pas. Mmh. Et donc, du coup, ça se joue quelquefois à peu d'euros près, donc c'est bien d'avoir ouvert ça aussi aux non-boursiers. Et j'ai changé aussi mon point de vue, parce que au début je me suis dit oui, mais du coup les personnes plus aisées, bah, elles ont peut-être pas forcément besoin. Oui, bah, les personnes plus aisées, elles vont peut-être aussi s'acheter à manger ailleurs si elles ont plus de moyens.
Moi je pense que je suis un peu réticente en effet, parce que je pense que comme tu disais, ça souligne les... enfin ça amplifie les inégalités en plus. Enfin, moi, je suis à Malesherbes et perso, les repas à 1 euro. Des fois, j'arrive à 13h et il n'y en a plus. En fait, je dois me prendre une pasta box à 4 euros. Et pour le coup, du coup, enfin, je pense que ça accroît le monde aussi qui vient au Crous. Et du coup, les gens qui sont vraiment dans le besoin et qui ont besoin, en fait, bah, se font prendre les repas. Enfin, c'est pas du tout prendre péjorativement, mais peut-être qu'ils en avaient plus besoin que d'autres. Et du coup, finalement, est-ce que l'argent que les Crous ont reçu de l'État, est-ce qu'on serait peut-être pas mieux de les investir dans autre chose, comme par exemple ouvrir un troisième repas aux Crous, parce qu'il n'y en a que deux par jour, et ceux qui vivent bah, avec leurs 2 euros par jour, avec leurs deux repas, ils ont peut-être besoin d'un petit déjeuner ou d'un goûter ou un encas. Est-ce que, enfin voilà, je pense que après, limite revoir aussi les critères des bourses.
Le problème aussi, c'est aussi l'organisation du Crous, parce que certes, quand tu arrives à 13h et il n'y a plus de repas, ça c'est pas normal. C'est pas un problème tant de...
Après, j'ai l'impression que si on commence par là, le Crous, on a énormément de choses à critiquer. Après, il y a quand même des bienfaits dans le Crous.
Ah, il y a beaucoup de bienfaits dans le Crous.
Tout cet argent qui a été reversé pour avoir des repas à 1 euro pour absolument tout le monde, est-ce qu'il n'aurait pas pu être mis ailleurs, comme tu disais tout à l'heure, autre part? Est-ce qu'on n'aurait pas pu le mettre autre part, en fait?
Mon accent, celle-là.
Ah oui, mais non, mais n'exclut pas l'autre. Il y a un moment, il faut favoriser il faut mettre de l'argent dans l'éducation, mais sur plusieurs volets.
Est-ce que c'est mieux de répartir tout l'argent qu'on a pour donner un petit peu à tout le monde, ou essayer de cibler les personnes qui en ont véritablement besoin, même si, comme tu dis, les paliers, ça se joue à rien? Juste, en fait, faire en sorte que les personnes qui n'ont pas accès à tout ce à quoi les autres sans bourse, qui ne sont pas boursiers, ont accès. C'est en sorte qu'ils ont accès à plus de choses, quoi.
Puis justement, ce qui me fait sourire, c'est qu'on donne même à ceux qui n'ont pas forcément besoin, comme on en parlait tout à l'heure, alors que par exemple, l'année dernière, il y a eu une coupure budgétaire pour l'éducation pour l'enseignement supérieur, alors qu'il y a des bâtiments qui sont pratiquement insalubres, on ne peut même pas étudier dans certaines salles. Et je pense aussi au logement étudiant. Il y a plusieurs d'ailleurs reportages qui ont été faits, je crois,
Alexandre
par le SUSI notamment.
Parlait, justement, voilà, au 11 ans, si vous étiez présent.
Et je pense que par exemple, ce serait peut-être mieux d'investir dans ce genre de choses plutôt que directement.
Oui, ou faire un Crous peut-être progressif, un peu comme les impôts, faire en fonction des revenus, ou par exemple avec ce qui vous reste pour vivre la semaine. Comme les supérettes solidaires, on a eu un reportage il y a quelques semaines là-dessus, faire en fait en fonction de ce qui vous reste par semaine et du coup d'établir le prix d'un repas, genre que ce soit 1 euro, 1 euro 50, 2 euros, à la fin ça fait quand même un budget et ça serait peut-être plus égalitaire que de faire 1 euro pour tout le monde, sachant qu'on est quand même à Paris et qu'à Paris, bon,
Du coup, tu proposes que le prix du repas change en fonction de la carte étudiante de la personne.
C'est ça, en fonction de ses moyens et ses vivres, entre guillemets.
Mais après, si on change le barème, il y aura toujours des gens pas contents parce qu'ils sont à quelques euros d'avoir.
Maintenant, c'est progressif.
C'est progressif, quoi.
Bah, c'est progressif, mais celui qui en aurait besoin et qui est à ça de l'avoir et qui pourrait quand même en profiter, même si c'est pour acheter un paquet de pâtes ou un truc.
Bah, c'est qu'il n'en a pas besoin.
Il n'en a pas besoin. Comment on décide? Parce qu'on ne peut pas décider pour les gens, on ne connaît pas les situations de tout le monde.
Non, mais c'est avec ce qui te reste à vivre, comme les épiceries solidaires. C'est avec ce qui te reste en fin de semaine. S'il te reste des trucs, c'est que t'es dans le bon. S'il te reste rien et que tu.
Bah en fait, pour les épiceries solidaires, bah, quand même, c'est t'es dedans ou t'es pas dedans, quoi. Enfin, ou bien t'intègres dans les critères pour, ou bien c'est pas le cas. Donc, c'est pas vraiment tellement progressif en soi. Et aussi, bon, bah, pour les épiceries solidaires, je dirais que c'est plus flexible. Et pour le Crous, bah, voilà, c'est vrai que c'est plus strict au niveau des barèmes. Après, voilà. Je suis partagée comme vous un peu.
Bah, peut-être changer ça, pardon. Et justement, dans comment le savoir, bah, y a le quotient familial, comment tu payes ton loyer, est-ce que tu as un statut d'étudiant qui travaille. Toutes ces choses-là, ça peut renseigner, peut-être un peu plus affiner justement ces aides-là et ne moins les séquencer. Et aussi,
que la mesure soit suivie, parce que là ça ressemble un peu à une fausse mesure ou une demi-mesure, avec ce que tu disais Jade sur le fait que bah, t'arrives à 13h, il n'y a plus de repas à 1 euro.
Je sais plus ce que je voulais dire.
Allez, j'aime trop nos débats. Je me sens comme une gosse qui explique à ses parents qu'elle connaît mieux la vie qu'eux.
Est-ce que du coup, on peut dire que tu souris comme une enfant ?
Justement, c'est le titre. Smile like a kid de Loud Bedroom, tout de suite sur Cours d'honneur. Fly like a star, you keep on chasing. The time is lost, kid. Your prey.
Il est 18h17 sur Radio Campus et 20h17 sur Radio Sorbonne Université. Vous venez d'écouter Smile Like a Kid de Loud Bedroom.
En parlant de nostalgie, parlons d'histoire, mais quelqu'un le fait mieux que nous.
Restez pour l'interview de Jérôme Poumarède avec Clara.
Tout le monde ne peut pas devenir un grand artiste, mais un grand artiste peut surgir n'importe où.
Il n'y a aucune raison logique pour qu'il y ait moins de talents créateurs au XXe siècle qu'au XVIIe.
Jérôme Poumarède, vous êtes professeur des universités en histoire des relations internationales dans les mondes modernes, 16e et 18e siècle, à Sorbonne Université. Bonsoir.
Bonsoir.
Alors, j'ai une première question pour entrer dans le vif du sujet. C'est quoi les relations internationales à cette période-là, donc 16e, 18e siècle? Est-ce que c'est la même chose au cours de cette période que vous étudiez? Et quelle comparaison avec aujourd'hui?
Alors, c'est une vaste question que vous me posez. Alors, les relations internationales à l'époque moderne, donc entre le XVIe et le XVIIIe siècle, sont des relations qui se tissent entre les États souverains, à un moment où se constituent et s'affirment les souverainetés en Europe. Ce sont des relations qui, finalement, se fondent à la fois sur des antagonismes forts. L'affirmation des souverainetés conduit aussi à un choc des souverainetés en Europe, à la fois... pour des territoires, pour des enjeux économiques. Ce sont des relations qui se structurent aussi à travers la mise en place de systèmes diplomatiques, de procédures de négociation. Par exemple, la mise en place des ambassades permanentes qui structurent encore aujourd'hui les relations internationales remonte en fait à cette période, à la charnière entre la période médiévale et le monde moderne. Et depuis ce creuset européen, ce sont aussi des relations qui se globalisent avec les entreprises de découverte et progressivement aussi de conquête coloniale, hein, dans lesquelles sont impliqués les États européens, l'installation dans les nouveaux mondes et notamment dans le monde américain, mais aussi le déploiement en direction de l'Afrique ou au-delà de l'océan Indien, qui inscrivent très vite, à partir de la fin du XVIe et du début du XVIIe siècle, bien la question coloniale au cœur des affrontements entre Européens. Et puis, au-delà encore, si on élargit le cercle, ce sont aussi les relations qui peuvent se tisser entre ces mêmes acteurs européens et les souverainetés extra-européennes, qui sont des souverainetés souvent impériales et fortes, comme l'Empire ottoman, l'Est de la Méditerranée, l'Empire perse, ou encore au-delà, en direction de l'Extrême-Orient, l'Empire de Chine, l'Empire du Japon, le Royaume de Siam, qui se découvre progressivement à l'horizon aussi des Européens.
Donc, on voit bien à ce que vous venez de nous dire que ça croise plusieurs champs quand même, à la fois de la politique, du droit, de l'économie. Et qu'est-ce que l'histoire vient apporter de spécifique par rapport aux autres disciplines à travers lesquelles on peut étudier les relations internationales ?
Alors, c'est-à-dire que la démarche de l'historien, qui est fondée sur l'étude des sources, en fait, qui sont conservées de cette période, permet de restituer dans la complexité ces relations. Alors, l'historien de l'histoire des relations internationales dans les mondes modernes travaille beaucoup sur des sources diplomatiques, d'abord, qui sont donc des sources qui sont produites par les États et notamment par ces ambassadeurs, par ces envoyés qu'ils entretiennent dans les cours européennes ou qu'ils expédient aussi hors de la seule Europe, vers ces souverainetés lointaines que j'évoquais tout à l'heure. Ces ambassadeurs résident de plus en plus sur place pour des périodes longues, écrivent beaucoup, racontent. La curiosité européenne se traduit aussi dans ces dépêches diplomatiques où les ambassadeurs non seulement racontent leur action au quotidien, mais racontent aussi tout ce qu'ils peuvent voir. Il y a une sorte de fabrique des savoirs qui s'opère dans ce creuset diplomatique. Donc ça reste une source centrale, mais naturellement les relations internationales ne se limitent pas à cette dimension politique et diplomatique. Elles englobent aussi des aspects plus culturels qui peuvent être abordés à travers l'histoire des voyages, par exemple, et les récits que les voyageurs rapportent de ces expériences souvent très lointaines, ou encore naturellement les sources économiques, puisque progressivement s'opère une sorte de décloisonnement du monde, alors que se constituent, par exemple, en Angleterre, en Hollande, de grandes compagnies à chartes qui vont envoyer leurs navires à travers les océans et qui accumulent, elles aussi, des savoirs d'une autre forme, qui sont des savoirs plus techniques, plus tournés vers, finalement, les sciences commerciales ou vers l'exploration aussi de continents, de pays qui sont considérés comme des marchés dans lesquels on va chercher à la fois donc des biens qui manquent en Europe, mais vers lesquels aussi on exporte finalement une partie des productions européennes de cette période.
Et justement sur cette question des sources, donc on aurait plutôt tendance à aller chercher du côté des sources diplomatiques, des ambassades, des grands acteurs finalement. Mais dans l'histoire de l'écriture de l'histoire, il y a un moment où quand même on s'est tourné vers une histoire plus par le bas, plus histoire sociale. Dans tous ces courants historiographiques, vous situez comment ?
Alors tout d'abord, il est possible, la distinction entre histoire d'en haut et histoire d'en bas n'est pas forcément totalement opérationnelle dans le cas de l'histoire des relations internationales. Celui qui a été mon maître et qui a véritablement installé ce champ d'études à la Sorbonne, Lucien Belli, a montré que l'on pouvait aussi faire une histoire sociale des relations internationales à travers, par exemple, l'histoire sociale des négociateurs qui ont des profils extrêmement variés selon les États, selon les contextes de leur mission. Et puis, il est possible aussi de faire une histoire des relations internationales par le bas, au plus près des sociétés, en percevant, alors ça peut se faire de même multiples manières. Tout d'abord, l'impact que ces relations internationales et les enjeux qu'elles recouvrent, aussi bien de paix que de guerre, peuvent avoir sur les sociétés locales. Dans le cas naturellement des sociétés frontalières, cet impact est fort. Elles sont les plus exposées aux conflits qui peuvent se déclencher donc fréquemment en Europe. Elles entretiennent aussi avec les sociétés voisines, y compris lorsqu'elles appartiennent à d'autres souverainetés, tout un ensemble de liens qui peuvent échapper finalement au radar des puissants ou des ministres. On a vu par exemple que de part et d'autre de la Manche, entre la France et l'Angleterre, dont les relations sont parfois très conflictuelles à l'époque moderne, eh bien les sociétés maritimes, qu'elles soient françaises ou anglaises, déploient aussi tout un ensemble de liens autour d'intérêts communs, comme le contrôle des espaces de pêche, par exemple, ou tout simplement les mobilités d'une rive à l'autre de la Manche, qui sont des modes de coexistence à l'échelon local, qui relèvent des relations internationales, mais qui échappent naturellement en partie au contrôle des souverains ou de leurs ministres.
Et vous parliez tout à l'heure donc des grandes découvertes, ce moment où peut-être les échelles d'observation et d'études, de la connaissance aussi des sociétés s'élargit. À partir de quand vraiment on peut parler de relations internationales dans l'histoire ?
Alors c'est une question intéressante parce que le terme même de relations internationales est-il approprié pour une période où, dans laquelle les nations n'existent pas encore, hein, c'est-à-dire que elles sont en train de se constituer. C'est un processus de très longue durée qui excède très largement finalement les découpages chronologiques habituels de l'histoire, hein, la constitution des nations qui sont ou deviennent des acteurs de l'histoire des relations internationales est un processus qui se poursuit jusqu'au XIXe siècle, voire encore au XXe siècle. À l'époque moderne, on parle beaucoup de relations interprincières, puisque le souverain et la souveraineté est bien souvent, en tout cas en Europe, et c'est vrai aussi dans des espaces extra-européens, incarné dans la figure du prince, qui détient souvent de façon très large l'exercice du droit de paix et de guerre qui appartiennent à la souveraineté. Donc, le terme même de relations internationales, vous avez raison, hein, est un terme qui peut être questionné pour la période moderne, qu'on utilise finalement de façon commode, parce que ça permet de finalement instaurer une sorte de continuité de l'objet entre la période moderne et la période contemporaine, même si naturellement la question de la nation est une question qui se pose encore de façon embryonnaire à la période moderne.
Oui, justement, comment on fait pour ne pas tomber dans l'anachronisme en histoire et notamment dans ces champs-là où on pourrait avoir tendance à peut-être trop calquer les événements et les enjeux de notre monde contemporain ?
Alors, c'est une question intéressante. Alors, d'abord, le premier remède à l'anachronisme pour l'historien, c'est de travailler sur les sources du temps, en fait. Et c'est un excellent garde-fou contre les risques d'anachronisme. Recentrer en permanence sa recherche et son interrogation en partant des sources et de la critique des sources, finalement, c'est un bon moyen de se préserver de ce danger que vous évoquiez. Alors, ce qui est intéressant, en revanche, c'est que l'on voit traverser l'histoire sur de très longues durées des phénomènes, des éléments qui, dans le passé, en viennent à conditionner le présent. Pour vous donner un exemple, c'est-à-dire plutôt que d'avoir une lecture rétrospective qui partirait du présent pour lire le passé, on peut très bien partir du passé pour, en revanche, éclairer le présent. Les découpages, par exemple, qui continuent d'exister aujourd'hui et qui ont conduit, il y a une trentaine d'années, à des guerres épouvantables dans les Balkans, ce sont des découpages qui, ethniques, religieux, géographiques, qui se sont progressivement donc consolidés dès l'époque moderne. Les zones de frontières entre l'Empire ottoman, l'Empire Habsbourg, les Habsbourg d'Autriche, la République de Venise qui occupait le littoral balkanique, ont déterminé en fait des zones de tension entre différentes populations, différentes religions, les Balkans orthodoxes, les Balkans catholiques, les Balkans musulmans, et ainsi déterminé à la fois des fractures et des frontières qui ont rejoué au moment de l'implosion de l'ex-Yougoslavie et débouché sur les guerres balkaniques entre Croates, Bosniaques, Serbes. Et ce sont là des héritages qui, certes, obéissent à des conflits qui obéissent à des éléments de conjoncture, mais qui trouvent aussi leurs racines dans un passé que l'historien veut tout à fait étudier et dont il voit finalement à l'époque contemporaine rejouer des fractures qui n'épuisent pas toutes les explications que l'on peut donner au conflit aujourd'hui, mais qui constituent aussi indéniablement une part de l'explication de ceci.
Et justement sur le fait que le passé peut éclairer le présent, est-ce que vous pensez que les politiques devraient faire davantage appel aux historiens, notamment au sujet des relations internationales. Il y avait par exemple en 2003, avant l'intervention américano-britannique en Irak, le président George Bush qui prévoyait une réussite de l'instauration de la démocratie par les forces d'occupation, comme ça avait été le cas en Allemagne et au Japon après 1945. Et c'était une comparaison qui avait été décriée par pas mal d'historiens de diverses nationalités. Et que pensez-vous sur le rôle de l'historien dans la cité, et notamment en politique?
Alors, je n'attirerai pas aux historiens tous les honneurs. Je pense que les politiques auraient besoin de plus de conseillers férus et frottés de sciences humaines au-delà de la seule question et de la seule discipline de l'histoire. Je trouve que aujourd'hui, finalement, les sciences humaines, dont l'histoire fait partie, mais on pourrait aussi naturellement appliquer la géographie, les historiens des civilisations qui travaillent plutôt dans des aires linguistiques, les philosophes, les littéraires aussi, peuvent jeter sur les situations complexes du présent un regard sans doute, disons, plus affiné, plus empathique aussi avec les réalités qu'ils ont à examiner que bien souvent le regard des politiques qui reste frotté d'un peu de science politique et encore pas toujours très bien acquise et qui ferait mieux de s'élargir aussi à toutes ces compétences dont nos universités, aussi bien chez les étudiants que chez les enseignants, donc recèlent pour être en capacité d'éclairer un présent qui est de toute façon profondément complexe. Et ça, je trouve que c'est aussi une des grandes leçons de l'histoire quand on est historien, que lorsque l'on retrouve dans les sources ces destinées individuelles qui s'entremêlent à des destinées collectives, eh bien c'est de toujours avoir présente à l'esprit la complexité des situations. Il n'y a jamais d'explication simple aux choses en histoire.
Juste, je me permets de vous couper parce qu'il y a une question qui me tenait à cœur avant qu'on termine, c'était sur la position des femmes dans le monde diplomatique. Vous le dites vous-même qu'elles sont plutôt bien mentionnées, mais sans qu'on questionne en quoi la féminité fut un atout ou non dans leur présence en politique. Est-ce que vous pouvez faire des parallèles entre les schémas que vous étudiez dans le monde moderne et l'actualité, enfin, place des femmes?
Alors c'est un sujet intéressant. On vient de publier un livre donc consacré à la présence, enfin la place des femmes en diplomatie à l'époque moderne. Alors les sociétés modernes sont des sociétés dans lesquelles les femmes ont une place, mais qui sont quand même des sociétés très masculinistes. Si l'on considère par exemple la France, dans laquelle finalement le pouvoir monarchique ne s'incarne toujours que dans un homme. Les femmes ne peuvent pas succéder sur le trône, elles ne peuvent pas non plus transmettre leurs droits de succession dans la monarchie française. Les ambassadeurs, à de très rares exceptions près, sont toujours des hommes, qui représentent, dans le cas de la France, toujours un souverain masculin. Alors comment se manifeste la place de la femme dans la diplomatie à l'époque moderne? D'abord, il y a des pays où il y a des souveraines, ce qui n'est pas le cas de la France. En tout cas, il peut y avoir des régentes, mais pas des souveraines au sens plein entier du terme. Vous avez de grandes femmes souveraines en Russie, par exemple, Catherine II au XVIIIe siècle.
Excusez-moi, je pense que on dépasse le temps de l'interview, mais du coup, nos auditeurs pourront découvrir tout ça dans le livre, c'est ça que vous venez de...
Oui, aux éditions Pédone, nous venons de faire paraître un livre intitulé « Femmes en diplomatie, diplomatie
super
de femmes ».
Voilà. D'accord. Alors, et je vous demande juste si vous pouviez me décrire que représente la Sorbonne pour vous, qui est notre question phare, en un mot.
C'est vrai, c'est un endroit merveilleux.
Oui. Eh bien, écoutez, Monsieur Poumarène, merci beaucoup d'avoir été au micro de Cours d'honneur. Je rappelle, vous êtes professeur des universités en histoire des relations internationales dans les mondes modernes à Sorbonne Université. Merci beaucoup.
Merci à vous.
Merci à notre invité, Jérôme Poumarène, pour être avec nous ce soir.
Et à Clara pour l'interview.
Mais plutôt que demander les gens à nous,
allons
que d'amener les gens à nous.
Allons à eux.
Merci. Mathilde s'en est chargée dans le reportage.
C'est sans doute l'une des informations les plus capitales de ces dernières années.
Il est 20h, Moustique arrive à son bureau, et là, c'est le drame.
Indécis, passionnés ou juste ambitieux, ils ont fait le choix d'étudier deux disciplines à la fois. On parle ici des étudiants en double licence qui ont un but en tête, obtenir deux diplômes en 3 ans. Mais concrètement, c'est quoi être étudiant en double licence à la Sorbonne? Mathilde est allée mener l'enquête.
D'une pierre deux coups, tel est l'objectif de la double licence qui permet d'explorer deux domaines d'études en parallèle. Et si les disciplines se dédoublent, les emplois du temps aussi. Alors une semaine type en double licence rime-t-elle avec deux fois plus de travail ? Pauline et Azalée, toutes deux en double licence, nous répondent.
En ce qui concerne l'emploi du temps, on a à peu près 30 heures de cours par semaine. Après, en ce qui concerne les révisions, c'est vrai que on ne calcule pas vraiment. Et puis ça dépend aussi de la période de l'année, si on a des évaluations ou non. C'est vrai que si on a des évaluations, on va peut-être prendre du retard sur les reprises des cours, ce qui fait que on est constamment sous pression.
Semaine type en double licence, c'est quand même des très grosses journées, c'est-à-dire que quand on est à la Sorbonne, du coup sur le campus Clignancourt, on va pas avoir de pause entre et on va faire du 9h, 18h. Ça encore, c'est plutôt acceptable. Là où à Assas, on va plutôt taper sur du 20h pour finir la journée. Un peu plus compliqué, mais c'est normal, il y a deux licences à valider. Mais on est, oui, sur des semaines à 30-35 heures environ.
Deux fois plus de travail et peut-être deux fois moins de temps pour le reste. Est-il possible d'avoir une vie sociale à côté de la double licence ?
Alors oui, j'ai réussi à avoir une vie à côté, c'est-à-dire que j'ai quand même un job étudiant, mais c'est une fois par semaine, par soir, enfin un seul soir. Je peux pas me permettre d'avoir plus. Sinon, oui, on arrive quand même à sortir, on arrive quand même à, par exemple, avec la journée du vendredi qu'on n'a pas, pouvoir s'organiser, faire autre chose. Maintenant, ça a quand même un prix, et parfois, il faut savoir aussi se réguler. Quand il y a les résultats des partiels, on sait ou pas si on a trop vécu à côté ou pas.
Moins de temps pour soi, temps pourtant précieux que les étudiants en double licence peuvent rapidement perdre en oscillant entre deux campus, parfois éloignés, comme nous l'explique Thaïs, étudiante en double licence d'économie et géographie à Paris 1.
La complexité aussi dans la création des emplois du temps pour les doubles licences, c'est que souvent il faut gérer des cours sur deux campus différents. Et quand les campus sont très éloignés, ils arrivent à faire une journée sur chaque campus. Mais ça arrive aussi que pour les campus qui sont à les 20 minutes, les étudiants doivent faire le trajet dans la journée, sac chargé et tête chargée.
Oscillé entre deux campus donc, mais aussi entre deux matières, se pose alors la question de la cohérence. Les deux matières se complètent-elles réellement ou donnent-elles l'impression de suivre deux cursus qui n'ont rien à voir ensemble ? Azalée est en double licence histoire et médias à la Sorbonne, elle nous fait part de son ressenti.
L'avantage avec une double licence avec histoire, c'est que l'histoire c'est tellement une matière importante qu'elle fait toujours sens avec la matière qu'elle accompagne. Dans le sens, en l'occurrence, où l'histoire est toujours présente pour apporter un socle culturel nécessaire actuellement. Et avec le journalisme, ça s'allie assez bien. Donc non, je trouve qu'elles sont justement alliées, ces deux matières.
Une cohérence apparemment assurée qui a pesé dans la balance lors du choix de la double licence pour Pauline, étudiante en éco-géo à Paris 1.
Je voulais pas faire que de l'économie, c'était un peu en plus la géographie pour compléter parce que j'avais besoin de challenge. Je pense que ça peut être un point positif en plus sur mon dossier parce qu'on peut voir que j'ai des connaissances en plus en géographie. Même pour ma carrière professionnelle, si je me tourne vers l'économie du développement, pour le coup c'est un bon mélange.
Pour les étudiants en double licence, cette pluridisciplinarité offrirait davantage de perspectives d'avenir grâce à l'acquisition de compétences plus larges issues de deux cursus complémentaires.
Je sais que ces deux secteurs, une fois alliés, qui peuvent vraiment permettre de faire des choses après. On n'est pas obligé de rester dans le secteur de l'histoire ou du journalisme. On peut aller dans la communication politique, on peut même aller dans l'histoire de l'art. Donc c'était vraiment l'idée de pouvoir faire beaucoup de choses après cette double licence.
Si nos étudiantes semblent plutôt satisfaites de leur choix universitaire, elles sont en revanche plus mitigées quant à l'importance que leur accorde ou pas l'administration.
Non, l'administration n'est pas du tout adaptée aux doubles licences. C'est un scandale, je tiens à le dire. Par exemple, je vais illustrer mes propos. En deuxième année, en histoire, on est obligé de prendre deux matières en plus, c'est-à-dire qu'on passe de 4 matières à 6 matières à la Sorbonne seulement parce qu'on n'a pas assez de CTS sinon pour valider notre double licence. C'est pas comment ils se sont débrouillés avec la maquette, mais ce n'est pas normal. Donc on se retrouve à prendre des cours qui n'ont pas forcément de lien avec notre parcours. Les licences simples ont, au final, ont moins de matières que nous. Ce n'est pas logique, il y a vraiment un problème.
Des doubles licences donc mal aimées. Que les étudiantes nous recommandent malgré tout.
Je recommande tout à fait la double licence. Je la recommanderais plutôt à des gens qui ont une ferveur de travail, qu'on peut vite se faire dépasser. Et on est dans des petites promos, on est entre 25 et 30 maximum, ce qui fait qu'on est quand même très proche. C'est un aspect un peu familial. Il faut avoir conscience de ça, c'est-à-dire qu'on n'est pas anonyme. Il y a cet aspect un peu sororité, fraternité qui est vraiment super à mes yeux.
Alors doubler ses problèmes ou doubler ses chances, la double licence promet une chose, c'est deux fois plus de questions.
Merci Mathilde pour cet excellent reportage. Qu'est-ce que j'aimerais avoir le temps et le courage de faire une double licence en 3 ans.
Mais te voilà qui fait une poste de taf.
LOL, lol, les pannes, ça arrive à tout le monde.
C'est ce qu'ils disent tous.
Sur ce, on écoute Que de faucons à plumes, Blanche de Lana Del Rey.
Mmh.
She's my white feather hawk-tailed deer hunter. Likes to keep me cool in the hot breeze summer. Likes to push me on the screen, John Deere mower. I know you wish you had a man like him, it's such a bummer. When I met him, like an arrow, like a bird in the heart, like a sparrow. In the dark, snap, crackle, pop. Bear mash, he's just in my bone marrow. Everyone knows I had some trouble, but I'm home for the summer and I wanted to know if I could use your stove to cook something up for you, cause you're positively voodoo. Everything that you do, did you know exactly how magical you are? Whoopsie daisy, you yelling I love you out to my white feather octail deer hunter. My hand off the stove, hun. Yeah, you, dinner's almost done. Whoopsie daisy, you, I imagine you do know how absolutely wonderful that you are. He's my white feather hawk tail deer, hun. Before I met him, wore a bow over 3 summers. Now it's a ribbon round my neck and it's cherry color. I just been baking, waiting on a spirit hunter. I got a nicotine patch for the summer. Yeah, I'm a ghost, doesn't mean I feel nothing. Put it on my ass, no tan line summer. I love my daddy, of course we're still together.
Swan s'écrit Google Traduction en personne, puisque vous venez d'écouter White Feather Hawk Tail Deer Hunter de Lana Del Rey, toujours des noirs à longe celle-là. Il est 18h41 sur Radio Campus Paris et 20h41 sur Radio Sorbonne Université. Et tout de suite, la chronique des bruits.
C'est une fabrication artisanale. C'est fait à la main, c'est roulé à la main sous les aisselles.
Allez, la vedette, top table!
Pas besoin d'un budget hollywoodien pour apprécier le cinéma quand on est étudiant. Aujourd'hui, Lavinia nous fait découvrir quelques bons plans cinéphiles. S'il s'agit bel et bien du 7e art, le prix à payer reste en dessous de 7 euros.
Et oui, petit jeu de mots bancal, 7e art, 7 euros, bref, vous avez capté. Prenez note car ces bons plans de jeunes cinéphiles ne vont ni vous ruiner, ni vous décevoir, pas comme le récent biopic de Madame Trump. On commence fort avec la Filmothèque du quartier latin, située rue Champollion, à littéralement 2 pas de la Sorbonne. Elle vous fait revisiter de grands classiques du cinéma pour seulement 5 euros la séance, ainsi vous pouvez tranquillement vous rendre à une séance entre 2 cours. Je pense notamment à ceux d'entre vous qui se sont retrouvés ce semestre avec un blanc de plus de 5 heures à combler entre 2 TD. C'est un faux problème des monolicences. Les intervenants du reportage de Mathilde n'ont pas ce problème-là. En tout cas, force à vous les gars. Mais je pense aussi à ceux d'entre vous qui ont toujours rêvé de tenter leur chance avec ce mystérieux croche d'amphi. Ce brun ténébreux, cette brune ténébreuse, bref. Vous n'arrivez pas à lui parler avec un peu de chance si vous jouez la carte du mec ou de la meuf cultivée en leur proposant une séance improvisée. Vous aurez un premier date et si manque de chance, ils acceptent de venir juste parce qu'ils aiment David Lynch. Alors au moins, vous êtes fait un ami pour la vie, voilà, bah, c'est bien. Un petit conseil d'ailleurs, ne choisissez pas du David Lynch si vous voulez pécho, à moins qu'il s'agisse d'une personne aussi cinglée que vous. Et si vous êtes dans le doute quant à son ouverture d'esprit, vous savez ce qu'on dit dans la vie, high risk, high reward, bref, l'accent français, ah, c'est horrible. Et puisqu'on parle de Lynch, et oui, si vous me connaissez, vous savez ce qui va venir. Depuis début janvier, la série Twin Peaks est non seulement disponible en intégralité sur Arte, mais aussi complètement gratuite. Bam, bon plan à 0 euros cette fois. Laissez-vous gratuitement hanter par le fantôme de Laura Palmer et séduire par le charme du détective Dale Cooper, à cela depuis le confort de votre chambre d'étudiant. Je vous promets aussi qu'avec du café et une tarte à la cerise à portée de main, vous serez complètement plongé dans la vibe de cette série culte. Enfin, pour ceux qui nous écoutent en direct, à moins de vivre dans une cave ou tout simplement la bisse, vous avez dû remarquer qu'il fait très beau en ce mercredi 25 février. Bon, pas vraiment là tout de suite parce que ouais, il fait nuit quoi, mais ouais, cours d'honneur, 20h. Allez, à croire que le printemps est déjà arrivé. Mais vous savez ce qui arrive aussi à grands pas, le printemps du cinéma. Cet événement aura lieu du 22 au 24 mars et vous proposera des séances à seulement 5 euros. L'avantage de ce bon plan est de vous proposer de nouvelles affiches signées 2026. Au programme notamment de la science-fiction et de l'action avec Projet Dernière Chance, mais aussi du drame historique avec Les Rayons et les Ombres. Car oui, la jeunesse aujourd'hui doit en finir avec le regret de ne pas avoir fréquenté la Sorbonne du temps de la Nouvelle Vague. On a bien le droit de vouloir apprécier le cinéma de notre temps à nous, car il nous appartient.
Merci Lavinia. C'est bon plan. On espère que la Sorbonne a autant de crazy facts à nous raconter que les films qu'on ira voir au ciné. Et maintenant, on part pas très loin de la filmothèque, puisqu'on va parler de notre cher Richelieu dans la chronique pavée.
Shut up!
Ce qui est inconnu ou mal connu
type excite l'imagination.
Il boude parce qu'il y a des tas de journalistes qui viennent venir et qui ne sont pas venus.
Ah bon ? Quand ils disent qu'ils viennent, ils viennent pas ?
De labyrinthe dark fantasy à monument classique, Richelieu a fait un rebranding façon 17e siècle. Glow-up royal et mise en scène du pouvoir, c'est la chronique pavée du jour, tout de suite avec Romain.
La Sorbonne, lieu emblématique de notre patrimoine, temple des lettres, fabrique de futurs chercheurs et parfois, soyons honnêtes, de futurs chercheurs d'emploi. Mais avant d'être ce monument qu'on traverse aujourd'hui entre deux CM séchés, la Sorbonne a connu un énorme relooking au XVIIe siècle. Derrière ce chantier XXL se cache le cardinal de Richelieu et ses copains. En 1622, Richelieu le bon vieux devient principal de la Sorbonne et très vite il trouve les lieux, comment dire, has-been. Les bâtiments datent encore du XIIIe siècle, à l'époque déjà ils avaient probablement vu passer plus de générations que Michel Drucker. La Sorbonne est alors un ensemble médiéval et sombre, presque un labyrinthe sortant tout droit d'un jeu vidéo de Dark Fantasy, mais Richelieu lui a une vision politique. Pour lui, l'université doit refléter la grandeur du royaume, pas question que le savoir français loge dans des bâtiments qui sentent le chasuble. Il lance donc un vaste projet de reconstruction avec l'architecte Jacques Lemercier, et grâce à Jacques, on quitte progressivement le gothique pour un style classique, plus synthétique, inspiré de la Renaissance italienne. La Sorbonne passe d'un look médiéval un peu austère à une esthétique plus moderne pour l'époque, directeur de la Sorbonne ou fashion designer, on ne sait plus. Et pour agrandir le tout, dans le plus grand des calmes, plusieurs anciens collèges sont rachetés puis démolis, notamment le collège des 18 et celui de Calvi. Oui, on rasait déjà des bâtiments universitaires comme s'il s'agissait d'un simple jeu de construction pour enfants. Au cœur du projet, une chapelle monumentale dédiée à Sainte-Ursule, la fameuse chapelle de la Sorbonne que vous voyez encore aujourd'hui, coupole majestueuse et façade imposante, mais surtout volonté claire, ramener l'université dans le paysage politique et religieux du royaume. Et oui, à l'époque, l'université n'est pas seulement un lieu d'études, c'est un outil d'influence. En 1642, Richelieu meurt, normal, il est vieux, mais il avait tout prévu, il demande à être enterré dans cette chapelle qu'il a fait construire. Littéralement, il modernise la Sorbonne pour y reposer en paix. Faut voir les chevilles du bonhomme, il était clairement dans un égo trip bien louche. Les travaux ne sont pourtant pas totalement achevés à sa mort, cependant, comme on le dit, si bien derrière chaque grand homme se cache une femme, les travaux de la cour de la nouvelle Sorbonne sont achevés par l'exécutrice testamentaire de Richelieu, la duchesse d'Aiguillon, sa nièce qui reprend le chantier. Elle supervise l'achèvement des bâtiments, termine les aménagements et participe même à l'enrichissement artistique de la chapelle. Les docteurs du collège poursuivent ensuite la reconstruction notamment de la bibliothèque, pièce essentielle du prestige universitaire. Résultat, au milieu du XVIIe siècle, la Sorbonne n'est plus ce vieux décor façon Dark Souls. Elle devient un symbole architectural du savoir français qui s'inscrit dans le classicisme et dans la mise en scène du savoir. Alors la prochaine fois que vous passez devant la chapelle, souvenez-vous qu'elle n'est pas seulement tape à l'œil, elle est le produit d'une stratégie politique, d'un chantier ambitieux et d'un cardinal timbré qui voulait laisser son empreinte jusque dans la pierre. Et faut dire que ça a marché, 4 siècles plus tard on en parle encore, pas mal pour un simple projet de rénovation.
Merci Romain, on est in love de tes anecdotes.
Moi ouais, perso je préfère être in love de quelqu'un plutôt qu'une chronique.
Ma pauvre Swan, le temps viendra, tu trouveras un bel italien, hashtag t'inquiète.
Faut déjà que j'apprenne la langue en fait. Mais attends, c'est ça l'idée, rencontrer l'amour en cours d'italien.
Tu peux tenter, ça marche pour certains.
Oh mon Dieu, les gens qui parlent en français, ils ont tellement de charisme. Everybody's gonna love today,
gonna love today, gonna love today. La maison s'éveille, c'est un nouveau jour.
C'est un nouveau monde. Moi, j'ai besoin de poésie dans ma vie, et d'aventure, et d'amour. Love, love me,
love, love. On enchaîne avec la chronique de Jade, Sorbonne in Love, mais attention, aujourd'hui on oublie le coup de foudre entre Matteo et Sofia, c'était plutôt la guerre froide en plein TD d'Italien.
Ah oui, on était loin de la Dolce Vita, c'était l'ambiance JO d'hiver 2026, entre eux le courant était carrément givré.
Heureusement, Jade nous raconte comment ils ont fini par briser la glace, on écoute leur récit suivi de leur témoignage.
Bonjour, alors moi c'est Sofia, je suis en M2 de sciences cognitives. On s'est rencontrés l'année dernière, donc quand j'étais en M1, lui était en L3, nous étions en cours d'italien, cours que nous avons en commun.
Moi c'est Matteo, je suis en M1 d'histoire, je lui avais demandé son blanco bah, il était vide, je pense qu'elle me trouvait beau, enfin je sais pas. Et c'était une amie d'amis, je la trouvais très belle, elle avait des beaux yeux bleus, surtout un roux très prononcé. Ce que j'aimais beaucoup, du coup, vraiment, je voulais l'inviter boire un verre au Nouvel Institut. C'est un petit bar à côté, pas très loin, il est sympa, je vous conseille.
Viens la semaine d'après où je me mets à côté de lui. Donc voilà, au moins, je suis sûre de récupérer mon blanco. et c'est là que je lui demande de le récupérer. Et là, avec pas mal d'audace, il me dit « Écoute, je te le rends. Si après les cours, on va boire un verre au nouvel institut. » Il me dit « Bah, pourquoi pas ?» Viens le soir. C'était assez sympa, il y avait une bonne ambiance, pas mal de monde. On était tous les deux, on rigolait bien, on se racontait un peu nos vies. Il était pas mal physiquement, après il m'attirait pas plus que ça, je trouvais qu'il se la montrait un peu. Mais finalement ça s'est plutôt bien passé, on rigolait bien. Et donc on a officialisé, ça fait bientôt un an et demi maintenant.
Ce qui m'a marqué chez elle, c'est que au premier rendez-vous au bar, et il était 16h30 à peu près, et elle avait presque déjà fini 3 pintes. Et moi, j'étais encore à ma deuxième, même pas à la moitié. Ça m'a un peu attiré. Je vais pas me le cacher. J'étais content qu'une femme aussi comme ça finisse autant de verres. Et que j'espère qu'on va continuer. Et que la pinte, c'est la vie, quoi.
Comme on a appris pas mal l'italien, tout ça, qu'on aime bien cette langue, on part à Milan.
Je lui ai offert un voyage en Italie. Et ouais, hein, ça vit, hein. Pas encore, mais j'espère. Comme ça, on ira directement voir mes grands-parents, vu qu'ils habitent là-bas. Vu que c'est des Italiens, tant mieux. On va trop bien manger, ça c'est sûr, parce que c'est la meilleure cuisine. L'Italie, c'est la meilleure cuisine. Et bon, je dirais un tout petit mieux que la France. Bon, après, c'est pas le débat.
Je suis très amoureuse. Toutes nos journées, ou que ce soit nos soirées, tout ça, tout se passe bien à chaque fois. Donc, le seul bémol, l'argent. Malheureusement. Et donc, dès que je finis mon Master 2, je vais trouver un travail. J'espère que lui aussi en trouvera un pour qu'on ait une situation assez stable et qu'on puisse trouver un appartement en plein centre de Paris.
Je vis encore chez mes parents et j'aimerais bien du coup partir parce que ça me fait chier un peu de encore rester chez mes parents. J'ai bientôt 50 ans. Non mais je rigole, hein, j'ai pas 50 ans. Mais juste, voilà quoi. Oui, non mais je rigole. Hein. Je rigole, la radio, hein. C'était une blague. C'était juste pas... que dès que je peux, quoi. Mais je pense que dans pas longtemps, je vais trouver un travail. Elle aussi, je pense, dans pas longtemps. On va économiser. On va pas trouver un truc trop cher non plus. Un petit appart avec un petit chat. Ça, c'est sûr, c'est obligé. Au moins un chat, ou peut-être deux. Comme on dit, Sofia, ti amo.
Mais quel clown, dis donc. Merci, Jade, pour cette histoire d'horreur. Pardon, d'amour. Désolée, j'ai une allergie au love.
Fais gaffe, tu risques de mourir pendant le mois de la Saint-Valentin.
T'inquiète, Ellie, dans tous les cas, je peux mourir pour toi.
Me too. C'est pour ça qu'on a décidé d'écouter Dying for You de Charlie XCX. Il est 18h52 sur Radio Campus Paris et 20h52 sur Radio Sorbonne Université. Vous venez d'écouter Dying for You de Charlie XCX.
On connaît bien un autre domaine qui risque d'avoir notre peau, le journalisme.
Eh oui, mais on en connaît surtout une qui a survécu. Lavinia nous raconte tout de suite dans la chronique Sorbonne en personne.
On prend la direction de la Sorbonne en personne.
Elle est la voix d'une jeunesse qui ne se tait pas. Salomé Sakai s'est imposée comme l'une des figures du journalisme engagé, notamment à travers le regard critique qu'elle porte dans son intervention sur Blast, évidemment. Mais avant tout cela, elle est aussi passée par la case Sorbonne. Aujourd'hui, Lavinia revient sur son parcours dans cette chronique portrait.
Salomé Sakai, c'est le genre de nom qui fait penser à une annonce à l'antenne, une allitération en S qui, à elle tout seule, pourrait donner envie de devenir autrice ou journaliste. Et à 30 ans, elle est déjà les deux.
She's got a point. She's an icon. She's a legend and she is the moment.
Avant de devenir l'une des figures les plus identifiables de la plateforme Web Télé Blast, grâce à ses interventions critiques autour des problématiques du féminisme, de la montée en puissance de l'extrême droite, et plus largement de tout sujet touchant à la justice sociale, Salomé Sakai est elle aussi passée par la case Sorbonne. D'accord, pas notre Sorbonne à nous, juchée dans le quartier latin. J'avoue que j'ai triché un peu, enfin presque, ne m'en voulez pas trop, mais... Ça va, écoutez. Vous avez un problème avec le 12e arrondissement. Salomé Sacquet est sortie en réalité diplômée de la Sorbonne Nouvelle, ok ? Paris 3, voilà, ça existe. Avec un master en journalisme bilingue français-english. Après la Sorbonne, il faut attendre avant de faire porter le souffle de l'info à l'écran. Hein, ça commence pas tout de suite. Salomé commence par apprendre le métier là où beaucoup commencent modestement, c'est-à-dire en stage. Il faut quand même préciser qu'il s'agit d'un stage pour le monde diplomatique, ce qui n'est quand même pas rien.
Et attention, hein, avec des horaires à la cool. Hein. Vous êtes quand même stagiaire. Gaëtan, bonne nuit. Gaëtan, debout. Gaëtan, assis. Gaëtan, va chercher.
En 2023, soit 2 ans après avoir intégré Blast en tant que directrice de la rubrique économique, elle publie son premier livre, Sois jeune et tais-toi, où elle démonte les clichés qui collent à la jeunesse et pointe la négligence de la part des politiques publiques envers la jeunesse. Voilà. Non, les jeunes ne sont ni paresseux, ni incultes, ni égoïstes. Disons que c'est la version plus sophistiquée de l'infâme OK Boomer.
Right now, the average age of this 52nd parliament is 49 years old. Okay, Boomer.
Voilà, c'est pas retombé comme je voulais. Okay. Ne pas se taire a aussi un prix. Dès ses premières vidéos, alors qu'elle est encore étudiante, les insultes arrivent sur le net, puis les menaces. Plus sa visibilité grandit, plus le harcèlement s'intensifie. Être femme et engagée reste visiblement un sport de combat, même encore de nos jours. Cependant, oh là, c'est bancal, je vais le redire, le silence ne fait pas partie des options de Salomé Sacquet.
Et merci beaucoup Lavinia pour cette super chronique. Je suis sûre que notre chère Salomé Sacquet a donc bien connu la vie étudiante, mais a-t-elle connu la maison de la vie étudiante ?
À chaque fois qu'il revient, il m'apporte quelque chose. Il m'écrit.
Ah oui, les cartes postales.
C'est quoi être étudiant à la Sorbonne ? C'est avant tout la vie étudiante, comme on l'a bien compris. Le campus de Jussieu, dans lequel se trouve la MVE, la maison de la vie étudiante. Cour d'honneur vous fait visiter ce lieu incontournable à travers la carte postale du fameux EGAS.
Alors, moi je m'appelle Paulina, je suis l'agent d'accueil à la MVE depuis le début de cette année et je vais vous présenter la MVE aujourd'hui. En dehors de la MVE, devant, on a les micro-ondes pour réchauffer les plats et on a aussi une vérande pour... déjeuner. Alors, on entre. À droite de nous, on voit directement le baby foot et on continue d'aller. Devant nous, une grande accueil avec les différentes brochures et les agents d'accueil qui vont toujours être chaleureux avec vous. Toute la journée, dès le matin au soir, il y a 2 agents et parfois 3. Et on entre dans une autre grande salle avec beaucoup de tables, avec des livres, des magazines. À gauche de nous, on voit une vélo. Ça ressemble à une table. Et sous la table, il y a une vélo. Et le but, c'est de faire le vélo en faisant les révisions. Et comme ça, votre cerveau, il s'active. Je ne sais pas si ça marche, mais on dit que oui. Alors, après, on continue. On descend l'escalier. Et l'escalier en bois, assez grand. Il y a rez-de-chaussée et l'étage monzant. Il y a souvent beaucoup de monde pendant le déjeuner. Quand on descend, on boit beaucoup des box de détente. Box de détente, en gros, c'est une petite salle avec des murs colorés où il y a encore une fois des tables. On va s'avancer vers la fin de notre visite. On entre dans un gros espace de repos où il y a des petits canapés, une peinture, des grandes fenêtres, beaucoup de la lumière, super salle de détente. Voilà.
Merci Elias pour cette super petite carte postale, ça fait du bien de voir d'autres paysages.
Sur ce, c'est la fin de cet épisode, merci de l'avoir écouté.
Merci à nos auditeurs de nous écouter et de nous soutenir au quotidien, on espère vous voir au moins 11 ans de plus.
Merci infiniment à notre invité Géro Poubmalred, interviewé par Clara.
Vous pouvez nous retrouver sur les réseaux sociaux, Radio Sorbonne Université existe sur Instagram, sur les plateformes de podcast et dans ta fac aussi.
Et merci aussi à Clara.
Et eh bien avec plaisir, j'aurais bien voulu continuer plus longtemps que vous l'avez vu cette interview, mais on peut continuer le débat plus tard. Hein.
Absolument.
On continuera ça au bar. On dit merci à Mathilde aussi.
Merci à vous, on était là 2 fois par semaine, c'était plutôt pas mal, on est vraiment très présents et on va continuer.
Ça taffe, merci. Et voilà, en parlant de taf, merci à Lavinia avec ses 2 chroniques.
Je suis contente d'avoir réussi à le faire. Alors, honnêtement, sans froid ça de sale. le sein des. Okay, est-ce qu'on peut parler de sein sur Radio Sorbonne ?
Bien sûr que oui.
Ouais, allez, vas-y. Ouais, le sein des écrivains et des gens qui sont arrivés sur nous. Ouais.
On dit merci aussi à Romain.
Et merci à vous, et c'était très instructif. Ça faisait longtemps qu'on s'était pas vu, je crois que ça faisait 2 jours.
Ouais, c'était il y a terriblement longtemps. Merci aussi à Jade.
Merci à nos 2 amoureux qui m'ont donné envie de, moi aussi, réciter mon histoire d'amour. Ils me font voyager, c'est pas mal.
Trop malin.
Et j'ai envie de partir à Milan maintenant, du coup. Ouais. Merci aussi au fameux Elias.
Et
Mais merci beaucoup pour cette super émission avec des super rubriques. J'ai vraiment beaucoup aimé et du coup, à dans 2 semaines, pas 2 jours malheureusement.
Non. Et oui, ça y est, c'est les vacances, mais on n'oublie pas de remercier Thomas le muet pour la régie. Il n'a pas de micro, il est toujours muet. Évidemment.
Ouais, c'est bon, on va aller dormir là, je vous ai assez vu cette semaine.
Merci à toi aussi, Swan.
Et merci à toi, Ellie. Un bisou à nos amis de Radio Campus Paris qui nous soutiennent depuis toutes ces années.
On s'écoute dans 2 semaines. D'ici là, on ne vous laisse aucun répit puisqu'on se retrouve en direct sur Radio Campus, RadioSorbonneUniversité.com.
Pour ceux qui étaient là lundi, on vous le répète.
Que de bonnes choses pour la fin du mois.
Dont les vacances qui arrivent à grands pas et que vous avez tous mérité, enfin, je crois. Mais surtout,
soyez vous-même.
Soyez fous même.
Restez curieux.
Restez avec nous.
On vous aime.
Bisous, ciao.
Ce qu'on veut, c'est vraiment retourner à l'université.
J'ai pas réussi à rendre tous les DM.
Moi, je suis vite distraite.
T'as rien oublié. Effaceur, Tipex, ton goûter, t'as ton goûter.
C'est-à-dire que le plus beau cadeau qui nous a été fait depuis qu'on est petit, c'est
la cour d'honneur.
J'ai aussi écrit un courrier au président de la République parce qu'on sait jamais. Hein.
Ça va tout changer parce qu'en plus, j'habite à Paris. J'attends, est-ce qu'il y aura un autre confinement et est-ce que je vais pouvoir travailler.
90% du temps était voilà, dans sa chambre, sur son lit. Ou.
J'ai foulé le sol de la cour d'honneur pour la première fois. J'ai pas été impressionnée.
S'il tressaille, on frissonne.